Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode du Pod. Aujourd'hui, nous allons parler d'événements et plus précisément de comment relayer un événement physique qui se déroule donc dans la vraie vie sur les réseaux sociaux et cela sans couac, mais surtout lorsque l'on est tout seul. Il y a quelques semaines, nous avions déjà abordé ce sujet sur l'étape de préparation, c'est-à-dire avant le jour J ou comment bien se préparer, comment bien anticiper. Et aujourd'hui, nous allons voir comment faire le jour J justement, le fameux moment où on arrive sur place. Pour ce sujet, je suis accompagnée de Brian, bien entendu. Bonjour Brian.
Bonjour Gwen.
Mais aussi et surtout d'Olivier Dassonville. Donc merci Olivier d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Gwen.
Je vais te laisser te présenter rapidement, du coup, pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou qui n'auraient pas écouté notre épisode numéro 2 où tu étais déjà notre invité.
Donc je m'appelle Olivier Dassonville, je suis digital media stratégiste. Donc en fait, en clair, je m'occupe de développer, concevoir des stratégies de contenu qui vont servir à mes clients à alimenter leur présence numérique en ligne. Et j'ai une spécificité, une particularité dans mes activités professionnelles, c'est que je gère aussi sur les réseaux sociaux la couverture événementielle d'un certain nombre d'événements qui se passent dans différents contextes. Ça va de la conférence au spectacle de rue, en passant par le salon international.
Ok, super. Alors, nous avons souhaité aborder ce sujet aujourd'hui dans le but de compléter notre épisode numéro 2 qui avait pour thématique la préparation à réaliser pour relayer un événement sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode numéro 2, tu nous disais d'ailleurs, Olivier, qu'une fois qu'on a bien préparé son événement en amont, on pouvait se demander comment faire pour couvrir un événement quand on était tout seul. Donc parlons à présent de l'organisation lorsque l'on arrive sur un événement le jour J. Donc Olivier, la question est très simple. C'est le jour J, j'arrive sur place, qu'est-ce que je fais? Quels sont les premiers réflexes à avoir quand on arrive sur place?
Déjà, je vais m'assurer que mes batteries sont bien chargées, c'est-à-dire que j'arrive pas avec mon téléphone avec 15% de charge, sinon ça va pas le faire. C'est valable aussi pour tous les périphériques annexes, qu'ils soient batterie autonome, GoPro, etc. On va pas se mettre à charger le jour J, c'est impossible. Un point crucial qu'on a tendance à oublier aussi, il faut absolument passer le téléphone en silencieux, pas en vibreur, parce que si vous faites une vidéo qu'on tente de vous appeler, bah la vidéo est foutue et on ne répond à aucun appel. C'est-à-dire que moi, je suis très clair avec les ordinateurs, on ne communique avec moi que par l'intermédiaire de messages. Donc je vais privilégier plutôt des plateformes comme Telegram, c'est-à-dire des messageries qui permettent de joindre des contenus médias sans une trop forte compression. Et puis quelquefois, j'ai des clients qui sont un petit peu réticents, donc en fait, ils utilisent le SMS, quoi, voilà. Donc au pire des cas, on fait avec le SMS.
D'accord.
Et un autre dernier point sur lequel il faut être très vigilant, qu'on s'assure qu'on est bien sur les comptes qu'on va gérer.
Qu'on ait bien un accès, effectivement.
Et qu'on ait aussi bien, qu'on a bien switché le compte. Je pense notamment à Twitter, où par exemple, on était dans le train, on tweetait avec son compte perso, et on n'a pas eu la présence d'esprit de switcher sur le compte de l'événement. Et dans l'effervescence du lancement, on peut se retrouver à commencer à tweeter, non pas sur le compte de l'événement, mais sur son compte ou un autre compte.
Oui.
Voilà, ça c'est hyper courant. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux sur les comptes.
Alors, c'est vrai que ça paraît basique ce que tu dis, peut-être pour beaucoup, mais en fait, je me reconnais un peu dans ce que tu dis. Il y a très longtemps, quand je découvrais le métier, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver, de me dire j'ai oublié de charger mon portable. C'est tout bête, mais voilà, parfois on n'y pense pas. Et puis la question d'être sur le bon compte, j'ai jamais fait l'erreur, heureusement, mais ça aurait pu m'arriver plusieurs fois. Donc, c'est vrai que c'est des conseils qui sont vraiment hyper précieux, parce que c'est des bons réflexes à avoir.
ça paraît évident, mais
c'est basique, mais tout le monde fait l'erreur. Hein.
Oui, puis quand on gère plusieurs comptes aussi, ça peut vite arriver.
Oui.
Donc oui, c'est important de faire attention.
On va pas commencer, on va pas se loguer par exemple sur le compte 3 minutes avant que ça commence.
Mm.
Non.
Parce que si le mot de passe est faux, ça peut tenir juste à une erreur de casse ou bien un espace en trop.
Mm.
Enfin, généralement, on fait copier-coller, il y a un espace à la fin du mot de passe qui est embarqué dans le copier-coller. On essaye de se loguer, ça marche pas. Ou alors, votre interlocuteur dans l'organisation, ben, il vous a donné l'avant-dernier mot de passe. Donc, c'est pas le bon. Là, c'est un peu la panique.
Ouais.
Ouais. C'est vrai que c'est important parce que ça joue aussi sur le stress derrière.
Oui.
Donc, arriver dans de bonnes conditions et faire ça dès le début, ça permet de bien lancer la journée.
Moi, j'ai tendance à me donner une heure et demie avant un événement.
Donc, tu arrives une heure et demie avant le début de l'événement.
Voilà.
En moyenne.
Oui.
Ok.
Quelquefois, je vais arriver 30 minutes avant, ou même carrément à l'arrache, mais je connais bien l'événement, je connais bien le lieu, donc je suis absolument pas inquiet. Mais il faut éviter de faire ça.
Oui. Il faut anticiper aussi le jour J, juste avant d'arriver, pour se mettre dans les meilleures conditions possibles.
Ben, on ne peut pas se retrouver à faire la queue avec tous les participants à la conférence, et puis à se dire, ça y est, les conférences commencent, et moi, j'ai même pas encore récupéré mon badge. Enfin, c'est pas possible.
Oui.
Ou alors, comme c'était la semaine dernière à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, il faut prévoir aussi les temps liés à la sécurité. Forcément, on a du matériel dans son sac, donc forcément, Vigipirate, c'est fouille et compagnie, voire explication un peu détaillée, voire sollicitation de l'organisateur pour passer correctement les contrôles. On ne fait pas ça 10 minutes avant que ça commence.
Ouais, c'est clair.
Et pendant l'événement... alors justement, comment est-ce que tu vas gérer ton temps par rapport à bon, c'est pas des imprévus puisque tu l'anticipes, mais entre les conférences, le temps de pourquoi pas changer de salle ou de recharger un petit peu ton matériel, enfin comment tu gères ton temps pour tout ça?
Alors déjà, je garde un œil sur le pourcentage de chargement des téléphones et je vais les remettre en charge systématiquement quand ils approchent, parce que j'en ai deux, je travaille avec deux téléphones simultanément, et donc ils vont être en charge dès qu'ils passent les 50%. Donc ils sont reliés à la batterie autonome que j'ai dans mes sacs, et je vais continuer de bosser, mais j'attends jamais descendre sous les 30%, parce que la charge, ça prend du temps, ça fait aussi chauffer les téléphones. Je ne peux pas être tout le temps en charge, toute la journée, parce que déjà, c'est encombrant avec le câble, etc. Donc, j'essaie de m'assurer que mes niveaux de charge restent un peu élevés. Et puis aussi, un point de détail, mais qui est hyper important, j'utilise que des batteries qui disposent d'une charge rapide. Et donc, ça suppose aussi avoir des téléphones à charge rapide. Pourquoi ? Parce qu'un téléphone, sans charge rapide, il faut 3h30 pour le charger.
Ah oui.
Par contre, faut, sur un événement, votre batterie descend à vue d'œil.
Oui.
Je vais, sur certains événements, je vais devoir charger complètement mon téléphone. Donc, si on compte une charge de 0 à 100, je vais en faire jusqu'à 5 ou 6 par jour et par téléphone. Donc, si on a une charge qui normale de 3h30, on n'y arrivera jamais. Quoi. Quoi qu'on fasse, on se retrouvera sans batterie un jour ou l'autre, enfin un moment ou un autre de la journée.
Oui.
Après, la gestion du temps, effectivement, quand il y a des changements de salle ou des changements de configuration, c'est très compliqué à gérer parce qu'il faut aller vite. Déjà, on a du matériel, il faut être capable de le ranger super vite et de sortir super vite. Et puis, encore pire, c'est les rotations de speakers dans une même salle sans intermède.
Mmh.
Ça arrive. Notamment le cas des remises de prix... peuvent être organisés par tout un tas d'acteurs où en fait les lauréats se succèdent sur scène à un rythme quand même important. Sauf que derrière, ça veut dire qu'il faut être capable de mentionner, il faut être capable d'écrire la publication, d'y joindre une photo, pourquoi pas une petite vidéo ou alors lancer un live. Donc faut pas s'en mêler les pinceaux parce qu'on risque dans une remise de prix encore plus que dans tout autre type d'événement, bah de perdre le flux, quoi.
Donc ça veut dire que sur un événement, tu es quasiment tout le temps en flux tendu. Il n'y a pas un moment où tu vas te poser pour peut-être produire un contenu un peu plus long ou une mini-vidéo
Alors, pendant les moments de pause, généralement, surtout sur les sites de conférences, on va avoir deux pauses à mi-journée et puis une pause du midi. Sauf que la pause à mi-journée, enfin les pauses à mi-journée, ça sert à remettre du matériel en charge, à... vérifier que les médias sont en train de se uploader dans le cloud, c'est aussi prendre connaissance des éventuels changements de programmation qui peuvent arriver, et moi on a tendance aussi à me demander de réaliser sur le pouce un interview de 2 minutes, donc là on n'a pas 2 heures de pause, donc il faut trouver l'interlocuteur, l'endroit où on peut aller, pour pas qu'on ait un endroit hyper bruyant, donc c'est quand même... des pauses qui sont pas du tout reposantes. Puis après, il y a la pause du midi, quoi.
Mmh. Oui.
Où il faut se préparer pour l'après-midi.
Ouais, c'est ça.
On s'arrête jamais.
Voilà. Là, c'est des journées qui sont quand même plutôt chargées, quoi.
Ouais, ouais. C'est intense. Surtout quand on est tout seul.
Oui.
Oui, c'était un peu ça aussi. L'intérêt du sujet, c'était justement comment on s'organise sur place quand on est tout seul. Parce que c'est énormément de travail, il n'y a jamais de pause, il faut tout anticiper, donc ça on l'avait déjà vu.
Pas faire de fautes.
Faire de fautes, oui, dans la pression des fois.
En fait, il faut être presque en pilote automatique.
Oui, c'est ce que je disais lors du podcast précédent, c'est qu'il faut connaître suffisamment son matériel pour ne l'utiliser qu'en mode réflexe, en mode automatique. Sans se poser la question comment ça marche pour faire ça.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'on doit se concentrer sur le sujet, quoi.
Et le jour J, on a plus le temps de se poser des questions, quoi.
On se pose pas la question, par exemple, sur les hashtags qu'on va utiliser. Ouais. Dans la phase préparatoire, on les a définis. Soit par bon sens, pour les hashtags catégoriels, soit aussi en utilisant le hashtag officiel de l'événement.
Ouais. Pendant toute la journée, ton arrivée, tu nous as expliqué ce qui était important à faire, et avant la fin de journée, est-ce qu'il y a d'autres choses à retenir sur l'organisation tout au long de la journée, dans quel ordre faire quoi et pourquoi faire comme ça et pas autrement?
Déjà, il faut garder en tête, une journée d'un événement va être, quoi qu'il arrive, rythmée par des temps forts. Qui vont être un discours inaugural ou un discours d'introduction, une séance de pitch, une annonce particulière, le remerciement des partenaires. Enfin, on a des moments clés qu'on ne peut pas louper. Si on les loupe, ben on a loupé la journée.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est des moments qui sont encore un cran au-dessus du flux quand même un peu tendu de la journée. Donc, les moments clés... non seulement par leur importance en termes de contenu et leur importance aux yeux de l'organisateur, mais aussi par le fait qu'il faut les traiter différemment. Donc il faut être prêt à y aller. Quand, par exemple, on a un discours inaugural, moi j'ai tendance à utiliser le discours inaugural pour faire un live. Pourquoi ? Parce que le discours inaugural, la substance n'est pas forcément du discours, n'est pas forcément hyper intéressante. On n'a pas des trucs hyper précis, hein. On est plus dans l'ambiance, dans l'accueil, etc. Par contre, faire un live, ça me permet d'éviter de le tweeter, mais ça me donne l'opportunité, grâce au live, de déclencher les notifications, etc. C'est-à-dire de déclencher une amorce sur les réseaux sociaux pour la journée.
Donc, quand on parle de live, c'est une retransmission
voilà, un Periscope pour Twitter ou bien un Facebook Live pour Facebook, ou même un Instagram Live, etc. C'est des dispositifs qui sont quand même particuliers. Mais alors, quand on fait un live, ben, il faut se préparer, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un live avec son téléphone à bout de bras, comme tout le monde fait, parce que sinon, ça donne quoi ? Ben, ça tremble, c'est moche, le son est pourri.
On a vite le mal de mer, du coup, si on le regarde.
On a aussi le crâne dégarni, l'arrière du crâne dégarni du participant qui est au rang devant nous. Ouais. C'est pour ça que si on est mal placé, ben, ça ne rend rien. La lumière est peut-être pas la bonne, donc il faut déjà avoir à minima quelque chose pour avoir un live qui soit stabilisé, donc ça tremble pas, et que le propos tenu soit intelligible au niveau sonore. Donc il faut aller vite et il faut être prêt, voilà.
Donc, en fait, quand on a un temps fort dans la journée comme ça, toi, tu sais, de prime abord, que tu as au moins 15 minutes pour aller sur place, pour au moins préparer tout le matériel.
Beaucoup moins, ouais.
Ouais. Ouais, donc ça fait partie vraiment des choses à pas manquer.
Oui, et puis pour mon commanditaire, et c'est tout à fait normal, pour lui, c'est essentiel, ces temps forts. Enfin, le remerciement, par exemple, des partenaires, on ne peut pas louper ce moment. L'invité majeur de la journée, on n'arrive pas 15 minutes après qu'il ait commencé.
Ouais, c'est ce qu'on disait dans l'épisode numéro 2, finalement. On doit identifier effectivement les moments qui sont importants pour finalement planifier sa journée et savoir vraiment où est-ce qu'on doit aller, à quel moment, à quelle heure, etc. Ça, c'est essentiel. Ok.
Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour des choses auxquelles faire attention donc pendant la journée, et du coup après il faut se poser la question de comment bien terminer, comment le faire et comment préparer l'après.
Alors déjà, pour revenir sur la journée, il faut aussi faire attention aux interactions du public avec le compte congère, parce que vous allez avoir, et c'est devenu très courant, les speakers qui vont envoyer des messages directs pour poser une question, pour demander un truc, et ils vont s'adresser au compte.
Oui.
On ne peut pas les laisser sans réponse. Donc, est-ce que c'est moi qui traite, ou est-ce que je délègue à quelqu'un de l'organisation la gestion de ces messages? Ça, c'est aussi une question. On ne se retrouve pas d'un seul coup avec des messages qui arrivent et on ne sait pas comment les traiter. Quelquefois, on me dit, ben, tu t'en débrouilles, ben, je m'en débrouille, quoi.
Non, mais
ou alors, je m'organise pour être capable de les traiter.
Ouais.
Si j'ai des messages aussi, des réponses à des contributions qui ont un intérêt positif ou négatif, il faut que j'en prenne, faut que j'en tienne compte. Et aussi, tout ce qui m'arrive de l'organisation à travers la plateforme de messagerie qu'on a définie en amont. Machin est en retard, le speaker est pas là, l'élu qu'on attend pour 11h, bah, il sera là à 13h30. Donc en fait, il faut aussi être capable de gérer des notifications d'applications multiples.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est ça aussi, il faut être capable de jongler entre différentes applications.
Il faut rester flexible toute la journée, quoi.
Oui.
Il faut partir du principe que ce qu'on avait prévu en amont...
Pas forcément changer.
Ouais, pas forcément changer. Ok, justement sur la partie interaction, ça veut dire qu'il faut aussi presque réfléchir à, on n'est pas là que pour produire du contenu et le diffuser, il y a aussi toute la partie modération qui doit rentrer dans le
jeu. Oui, alors c'est super difficile parce que déjà le rythme il est intense, donc moi en termes de modération, enfin en termes d'interaction avec les contributions tierces qui vont mentionner ou s'adresser au compte que je gère, je vais appliquer des filtres d'importance dans ma manière de les traiter.
Ouais.
Les remarques lambda, etc., bah, j'y réponds pas. Voilà, les gens ont fait une remarque, un compliment, un merci, ou ils ont complété un propos, c'est très bien. Après, si, comme je disais, c'est un speaker qui s'adresse à moi, enfin qui s'adresse au compte ou qui va rebondir, là c'est important. Mais on ne peut pas se lancer dans une modération exhaustive au sens strict du terme alors qu'on est en train d'assurer la couverture événementielle.
Et qu'on est tout seul.
Et qu'on est tout seul.
Parce qu'effectivement, quand il y a plusieurs personnes, on peut dire il y a une personne qui produit et une personne qui modère.
Oui. Et puis si normalement, si l'événement est correctement organisé et si on fait correctement son travail, on ne va pas avoir des rafales de mécontents. Voilà. Parce que le mécontentement, il va se manifester effectivement à l'encontre du compte principal, mais le mécontentement, il a trait à des défaillances organisationnelles ou alors à des contenus qui ne sont pas adéquats et donc le public peut réagir en opposition à des contenus qui ne sont pas corrects, etc.
Ouais.
Quand je vais gérer un événement, par exemple à forte composante tech, on fait attention à la manière dont on s'exprime, on choisit les bons mots, etc., parce qu'on a des populations expertes qui ne comprendraient pas pourquoi l'événement auquel ils participent n'a pas le niveau attendu.
Oui. Ok.
Je pense qu'on va passer à la partie clôture de la journée. Donc, comment tu clôtures une journée d'événement ?
Alors déjà, on a les merci, on les oublie pas.
Oui.
Parce que voilà, donc c'est en fait, encore une fois, on est la voix de l'organisation. Donc la voix de l'organisation va prendre la parole pour remercier ses partenaires, les speakers, le public, les bénévoles, etc. Donc ça, c'est un point important. Même des choses un peu, qu'on peut considérer comme étant anecdotiques, comme la photo de fin avec tous les bénévoles. C'est aussi important parce que ça renvoie un message aux participants, mais aussi aux partenaires, aux sponsors. Et puis après, moi, je vais avoir tendance à me poser pour parcourir ce que moi j'ai fait dans la journée, pour me rendre compte de ce que j'ai pu faire. Parce que je me rends pas forcément compte de manière globale. J'ai pas l'appréhension globale de ce que j'ai pu faire, donc je vais plutôt le faire en fin de journée. Et puis, je vais aller solliciter l'organisateur pour avoir son ressenti à chaud. C'est toujours hyper important. Et puis, le lendemain, je vais constituer un album à partir des médias qui ont été mis en ligne automatiquement dans Cloud, les médias que j'ai pu capturer ou ceux de mon photographe, parce que ça m'arrive aussi de travailler avec un photographe qui va pouvoir m'envoyer en temps réel via le Wi-Fi des photos qui vont me servir à illustrer mon propos. Et ensuite, la dernière étape de restitution, ça va être de synthétiser statistiquement le travail fait en termes d'impact d'audience à travers des outils qui peuvent être soit les interfaces statistiques natives de Twitter, de Facebook, etc. Mais ça ne suffit pas. Soit des outils tiers. Alors pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'un événement, ce n'est pas que l'activité du compte de l'événement qui a de l'importance. C'est aussi la popularité générée par l'activité social media. En l'occurrence, l'utilisation du hashtag principal par le plus grand nombre de gens possible. Donc, on doit avoir une statistique sur le hashtag. Donc, généralement, moi, mon rapport statistique, c'est l'activité organique du compte et l'activité autour du hashtag.
L'activité générée autour de l'événement. C'est vrai que les plateformes, elles vont donner de très bonnes statistiques sur le compte.
C'est tout.
Sa portée, son nombre de messages, le taux d'engagement, etc. Mais ça s'arrêtera là. Okay.
Alors que le succès de l'événement se mesure quand même au succès du hashtag aussi.
Ouais. Donc, il faut vraiment avoir ces deux aspects-là. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire à la fin de l'événement.
Et qu'on a anticipé avant.
Oui.
On ne se dit pas, trois jours après, tiens, qu'est-ce que je vais prendre comme outil. Parce que, aussi, le choix de l'outil est important de par son coût. On peut sortir, il y a des outils très puissants, mais aussi très coûteux, mais qui sont adaptés à certains gros événements. Par exemple, moi, je collabore tous les ans avec Talkwalker, qui a une solution, des solutions les plus puissantes du marché. Pour le Web Today, c'est complètement cohérent d'utiliser Talkwalker. Pour un événement B2B pointu avec quelques centaines ou un peu plus de 1000 participants, on va pas sortir l'arme nucléaire qui est Talkwalker. On va utiliser des outils un peu plus dimensionnés.
On sort pas un bazooka pour tuer une mouche.
Voilà.
Très bien. Alors, comment est-ce que tu conclurais cette fois en trois mots sur cette thématique de comment relayer un événement sur les réseaux sociaux sans quoi quand on est tout seul?
Il faut juste se rendre compte qu'il n'y aura que qu'il y aura quand même plein de problèmes, plein d'imprévus, plein de couacs. Donc si vous n'êtes pas prêt, vous allez vous laisser submerger et l'événement sera un échec en termes de couverture social media. Et aussi, s'il n'y a pas eu de préparation, c'est pas la peine de se lancer.
Oui, c'est totalement complémentaire.
Ben, automatiquement, on va dans le mur. Serait-ce que pour des choses hyper basiques, juste la batterie. On voit plein d'événements qui commencent et qui s'éteignent à cause des téléphones des responsables de la com qui sont sur l'événement. Ben voilà, ils n'ont plus de batterie. Donc, l'a tous déjà entendu. Ben, j'ai pas pu continuer, j'avais plus de batterie.
Donc, si on n'a pas écouté l'épisode 2, eh bien, ça peut être compliqué de...
Ça peut être super compliqué.
Très bien. Merci à vous deux.
Merci Gwen.
Merci Gwen.
Merci d'être revenu encore une fois. J'espère qu'on aura le plaisir de t'accueillir pour d'autres thématiques.
Un plaisir partagé.
Merci à tout le monde pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du pod et je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée.
Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. Ensuite, n'hésitez pas à nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et profitez-en également pour nous faire part de vos conseils, vos impressions, nous poser vos questions ou faire une suggestion. Qui sait, vos retours pourraient peut-être nous donner des idées pour nos prochains épisodes. Merci beaucoup pour cet échange, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pod.